Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
Bonjour à tous, René à l'animation d'Un jour à la fois, cette émission hebdomadaire qui vous ramène à la proposition, la solution des alcooliques anonymes, celle basée sur les 12 étapes des alcooliques anonymes et une promesse de vie heureuse sans la substance superficielle qui malheureusement a amené beaucoup de nos membres dans de grandes difficultés et une vie plutôt sombre. Je vous explique un peu rapidement ce qu'est ce mouvement, une association internationale d'hommes et de femmes qui avait un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règle d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leur problème d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. C'est une promesse que nous font nos cofondateurs et les millions de membres qui ont suivi leurs traces. Une vie heureuse, une vie remplie de sens et beaucoup de paix intérieure. Hein. C'est évidemment la recherche principale de notre passage ici-bas. Cette semaine, comme à l'habitude, on reçoit une invitée. Aujourd'hui, Danielle, qui a bien voulu accepter notre invitation, elle est membre de cette fraternité et elle va venir nous parler de sa vie, des difficultés passées, de sa consommation probable et évidemment de son expérience actuelle de relèvement et de rétablissement. Il semble être agréable puisqu'elle a un beau sourire, elle a un petit air moqueur. J'imagine qu'on va avoir beaucoup de plaisir à la découvrir ensemble. Danielle, je te laisse la parole, on t'écoute.
Merci René. Non, je ris parce que sa consommation possible, quelque chose comme ça, comme non, c'est sûr et certain que j'ai consommé. Fait que bonjour, je m'appelle Danielle, je suis une alcoolique, puis ça me fait plaisir d'être ici, dans votre beau sous-sol. Merci pour l'invitation, merci pour la confiance. Avant de commencer, je demande toujours à ma puissance supérieure d'avoir de l'humilité quand je partage, parce que j'ai un défaut de caractère parmi tant d'autres, mais j'en ai un qui est l'orgueil, le désir de plaire, le désir d'être bonne, d'être aimée, puis tout ça, avec le mode de vie... Avec le mode de vie, ça se soigne, ça se gère bien, puis c'est beaucoup moins intense qu'avant, mais quand même, il y a toujours un petit souci de vouloir bien faire les choses, en tout cas. Fait que oui, je demande à ma puissance supérieure l'humilité. Pour faire ça, très simplement, je viens d'une famille ordinaire, de banlieue. J'ai découvert l'alcool à l'âge de 7 ans. J'ai toujours été une personne très angoissée, très anxieuse, qui se posait beaucoup de questions existentielles, d'où je viens, pourquoi la vie, qu'est-ce qu'il y a après la vie. Tu sais, très, très jeune, je me posais ces questions-là. Donc, je faisais de l'insomnie. Et tu sais, je recule, j'ai parlé d'avoir 7 ans, mais avant 7 ans, je faisais de l'insomnie, puis j'allais réveiller ma mère la nuit, puis parce que j'avais peur, puis je voulais dormir, puis tout ça, puis je lui demandais, tu sais, maman, est-ce que tu pourrais me donner, il n'y en avait pas de médicaments à la maison, mais fouille-moi, j'avais dû voir ça dans un film, je savais que ça existait, puis j'avais 5-6 ans, puis je lui demandais des pilules pour dormir, parce que j'étais pas capable de gérer mon anxiété. Fait que moi, aujourd'hui, avec le recul, ce que ça me dit, c'est que déjà à cet âge-là, face à mon mal-être et à ma souffrance intérieure, j'avais le réflexe naturel que de demander une substance qui me gèlerait, qui m'aiderait à vivre. Parce que c'est pour ça que j'ai consommé, parce que j'avais besoin d'aide pour vivre, parce que je savais pas comment vivre. Donc, rempli de peur, rempli d'insécurité, et bien évidemment, ma mère, elle va pas donner des pilules pour que je dorme, là, mais... C'est ça. À l'âge de 7 ans, je me souviens de la première fois, j'ai goûté à l'alcool. On était tous en famille, assis dans le salon. C'était les années 70. C'était de Carol Burnett Show, Lawrence Welk Show, Dean Martin, tout ça, là. Je me souviens de cette époque-là. Et le beau-père, que je nomme avec beaucoup d'affection, comme vous pouvez voir, le beau-père se prenait un petit gin Beefeater 7-Up, ma mère en prenait un, c'est-à-dire qu'elle remplissait son verre, mais elle finissait pas. C'est à peine si elle se trempait les lèvres dedans. Tout ça pour dire qu'il n'y avait pas de problème d'alcool à la maison, mais il y avait de l'alcool. Et moi, j'étais pognée, je me trouvais pas belle, pas fine, pas intelligente, pas, tu sais, j'avais une estime de soi dans le sous-sol, littéralement, là. Puis donc, j'ai voulu y goûter parce que j'étais curieuse. Fait que j'ai goûté, ils m'ont laissé faire. Et bien évidemment, tout de suite, j'ai ressenti la transformation dans la personnalité et une espèce de, oui, une chaleur physique, mais une espèce de chaleur aussi qui m'a enveloppée puis qui m'a réconfortée. J'ai trouvé du réconfort dans cette gorgée d'alcool-là à l'âge de 7 ans. Et la transformation de la personnalité, c'est que j'étais timide, j'étais un peu repliée sur moi-même, et là, je suis devenue extravertie. Donc, j'ai commencé à faire le clown, à faire le bouffon, puis on me trouvait drôle, donc j'avais de l'attention. Fait que, ah ouais, une autre gorgée, parce que là, je venais de découvrir quelque chose, tu sais, même si à 7 ans, tu peux pas tout... J'étais pas consciente de tout ce qui se passait, mais j'avais découvert quelque chose, tu sais, je le sentais. Fait que j'ai pris une autre gorgée, puis peut-être une troisième, mais ça a fini en blackout. Fait que, mais c'était drôle, c'était les années 70, un enfant qui fait un blackout, so what, tu sais, c'est pas grave. Aujourd'hui, on appellerait des PJ, là. Mais dans ce temps-là, c'était juste cute, tu sais. Fait que, bon. Donc, les années passent, j'ai pas commencé à consommer de façon régulière à l'âge de 7 ans, mais à l'âge de 12-13 ans, là, je me rappelais, moi, je me... Puis, ah oui, il y a une chose que je veux dire, c'est que j'ai pas aimé le goût de l'alcool, pas du tout, là. Puis, je fais l'analogie avec le foie de veau, parce que ma mère, quand j'étais petite, elle me faisait du foie de veau, puis j'haïssais ça me roulait dans la bouche. Fait que j'ai goûté une fois, puis j'en ai jamais redemandé. L'alcool, j'ai détesté le goût, mais j'en ai voulu d'autres après, par exemple. Tu sais, c'est pas... Tu sais, c'était l'effet que je recherchais. Fait que c'est juste ça que la petite analogie que je voulais faire. À 12 ans, j'ai commencé à consommer, à piquer de l'alcool dans le bar, puis à boire après l'école. Et pourquoi j'ai bu, tu sais, je dis toujours, ben parce que je suis une alcoolique. Tu sais, pourquoi j'ai bu de façon exagérée, c'est tout simplement parce que je suis une alcoolique. Puis parce que je suis habitée à la base, puis maintenant, mais à la base, d'un mal de vivre, d'un mal-être. Très, 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 très envahissant, qui fait en sorte qui inhibe toutes mes relations interpersonnelles, qui fait que je suis incapable d'avoir une réelle association avec un autre être humain, tu sais, comme on le dit dans la littérature. C'est très difficile pour moi. Donc, l'alcool, à travers mon adolescence et ma vie de jeune adulte, m'a aidé à juste rester en vie puis à survivre socialement, en société, avec les autres. Parce que je me suis toujours sentie comme une entité étant à part. Tu sais, la vie pour moi, c'était comme, bon, il y a le monde, les gens autour de moi, puis il y a moi. Mais moi, je fais pas partie de ce gang-là. Tu sais, moi, je fit nulle part. Je peux pas m'intégrer nulle part. Je suis pas capable, je sais pas comment vivre, je sais pas comment être, je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Si je me fais une amie, c'est cette amie-là, puis il faut que ça soit bien exclusif puis bien intense. Je suis pas capable d'être dans un groupe. Mais alors si je suis dans un groupe, faut que je sois la vedette, parce que si je suis pas la vedette, ça marche pas. Fait que j'avais tout le temps, j'oscillais entre deux états d'âme, deux personnalités, c'est-à-dire celle qui était la vedette, qui prenait beaucoup de place, le plancher, puis tout ça, puis l'autre qui avait aucune estime personnelle, qui était à terre, puis qui se comparait, je me comparais aux autres, j'étais jamais assez encore. Tu sais, ça m'a suivi tout ça, le sentiment d'infériorité. Mais l'alcool m'a aidé à dépasser ça, mais à surpasser ça de façon malsaine aussi, c'est-à-dire en devenant en me sentant supérieur aux autres. Donc, j'ai réussi à passer à travers l'adolescence comme ça. Les drogues sont arrivées. Je vais m'en tenir à un propos sur l'alcool, mais j'ai consommé de la drogue. Bon. Puis à l'âge de 21 ans, j'étais suicidaire. Fait que là, j'ai dit, je pense que j'ai un problème. Au départ, je pensais pas que j'avais un problème d'alcool. Je pensais que j'avais un problème de drogue. Et j'étais convaincue que c'était mon environnement qui faisait en sorte que je consommais comme ça. Mais on m'a parlé, écoute, c'est vague, là, ça fait longtemps, c'est en 1986. Ça fait que j'ai entendu parler d'alcoolique anonyme et j'ai cherché dans le bottin le numéro de téléphone et j'ai appelé l'aide téléphonique, tu sais, qui est encore là, qui fait du beau travail encore aujourd'hui. Puis alors moi j'ai appelé, puis il y a quelqu'un qui a répondu, c'était un homme, je me souviens pas de son nom, mais tu sais, j'étais timide, puis j'avais honte, puis tu sais, je savais pas trop quoi dire, mais j'ai juste dit, je pense que j'ai un problème de consommation de drogue, puis tout ça. Mais moi, j'avais déjà la solution. Je l'appelais pour lui dire que j'avais trouvé la solution. Dans le fond, tu sais, j'ai dit, je vais déménager, je vais changer de province, je vais aller vivre ailleurs, parce que c'est mon environnement qui fait en sorte que je suis comme ça, tu sais. Puis cette journée-là, il m'a sauvé, je pense, bien des tracas, puis peut-être même la vie, parce qu'il m'a dit, tu sais, Daniel, tu peux déménager si tu veux, mais ton problème, il va te suivre parce qu'il est à l'intérieur de toi. Il m'a pas dit, t'es alcoolique, tu devrais pas boire, il m'a juste dit ça. Puis ça a fait, oh, ça a rentré au poste, là. Tu sais, j'ai compris quelque chose, je sais pas quoi encore, là, tu sais, je savais pas quoi encore, mais j'ai compris quelque chose et j'ai commencé à faire des meetings à ce moment-là. Et, fait important, j'ai perdu la soif immédiatement. À partir du moment où j'ai commencé à faire du meeting, je n'ai plus eu soif, je n'ai plus eu envie de consommer. Ça m'a été enlevé. Et ça, c'est pas par ma volonté, c'est la force du mouvement puis de ma puissance supérieure. Je vais en parler de mon rétablissement tantôt, c'est super important. Mais la soif m'a été enlevée immédiatement et j'ai commencé à faire du meeting de façon très... j'étais très impliquée dans les services, tout ça, jusqu'à l'âge de 29 ans. Où là, on m'a présenté une opportunité d'aller travailler sur un bateau de croisière en Asie. Donc, je fais comme, OK, belle opportunité, l'Asie, c'est pas un voyage que je pourrais me permettre, puis wow! Tu sais, on dit que dans A, il y a des miracles, des belles opportunités qui se présentent, donc c'est ça, je suis partie en Asie.
Daniel, on est pendu à tes lèvres, un partage déjà très riche et très bien expliqué, où on a beaucoup de facilité à suivre en images ce que tu nous décris. On revient après cette première pause pour la suite de ton histoire.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie de René et son équipe.
En fin de retour, après ce court moment d'absence, où on a pu se déposer dans le premier segment, le survol rapide de l'enfance et de l'adolescence de notre invité du jour, Daniel. On poursuit rapidement dans cette belle histoire qui est la sienne. Avant, je vous fais la lecture d'un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions de Bill. En revenant sur les défauts que nous ne sommes pas encore disposés à abandonner, nous devrions assouplir les positions radicales que nous avons prises. Dans certains cas, nous devrons peut-être dire « Je ne peux pas encore me détacher de ceci », mais nous ne devrions pas dire « Jamais je ne me détacherai de ceci ». Si nous disons « Non, jamais », notre esprit se ferme à la grâce de Dieu. Tout retard est dangereux et la révolte peut être fatale. Le moment est donc venu d'abandonner nos objectifs limités pour accomplir la volonté de Dieu pour nous. Un message assez clair, assez direct, hein, sur l'importance de l'introspection, de la connaissance de soi, du développement de cette conscience face à nos défauts, nos traits de caractère, nos réactions et nos instincts pour créer un peu d'équilibre et d'ordre dans tout ça afin de ne pas risquer la rechute ou la révolte. Donc, Daniel, qui vient de se faire proposer un voyage en Asie, et où peut-être on découvrira la suite. On t'écoute.
Merci. Peut-être juste pour préciser, quand j'ai appelé à Alcoolique Anonyme, la première fois, j'avais 21 ans. Donc, j'ai fait 8 ans d'Alcoolique Anonyme, très active, plus soif, tout allait bien. J'étais bien alignée. J'avais une marraine, tout ça, j'étais bien, c'était bien. Puis, je suis retournée aux études, au cégep, tout ça. Je suis partie en appartement. Tu sais, j'ai commencé à me construire pendant ces années-là. C'était la vingtaine. Fait que, tu sais, j'ai fait ce que j'ai pu aussi dans vingtaine. Moi, en tout cas, je me connaissais pas très bien dans vingtaine. Ça m'a pris beaucoup de temps. Et justement, donc, à l'âge de 29 ans, on m'offre l'opportunité d'aller travailler sur un bateau de croisière en Asie. Donc, c'est une fille qui me recrute. J'ai travaillé un petit peu sur des plateaux de tournage, puis je l'ai rencontrée là par hasard, cette fille-là. Puis, tu sais, moi, je me disais, oh mon Dieu, quel beau hasard, c'est Dieu qui m'envoie ça, da, da, da. Fait que, OK, belle opportunité. Donc, elle m'invite chez elle pour me parler un peu du poste, puis en quoi ça consiste et tout ça. Bon, puis on est, c'était, à l'époque, c'était des albums de photos, là. On n'était pas, il n'y avait pas d'ordinateur encore. Puis elle me montrait les photos parce qu'elle, elle avait fait ce travail-là. Elle me montrait les photos, puis je voyais qu'il y avait beaucoup de parties, beaucoup, beaucoup d'alcool et beaucoup, beaucoup de parties. Puis ça m'a fait, oh, ça a levé un petit flag en dedans de moi, tu sais. Mais je voulais tellement aller en Asie, puis j'étais tellement convaincue que c'était Dieu qui m'envoyait ça, puis que ça allait être correct. Puis surtout, je me disais, j'ai plus soif. Fait que il y en a pas de problème. Je suis capable, tu sais. Chez moi, à Montréal, j'en côtoie des gens qui consomment de l'alcool, ça me donne pas soif, tu sais. Donc, je me suis vendue l'idée. Aujourd'hui, avec le recul, puis là, vous allez me voir venir avec mes gros sabots, là, la rechute, on va en parler, mais avec le recul, je peux dire que, wow, tu sais, je me suis mise dans une situation où j'étais vulnérable comme alcoolique, tu sais. Puis, mais pour être honnête, je dois dire que avant qu'on me propose ce poste-là, j'avais commencé à délaisser les meetings un petit peu parce que ça allait bien. Je voyais moins ma marraine, je faisais beaucoup moins de meetings, j'étais beaucoup moins impliquée parce que j'étais occupée à vivre, j'avais 21, j'étais dans ma vingtaine, puis je voulais juste, tu sais, ah, c'est correct, tu sais, j'ai perdu la soif, c'est ça l'important, fait que ça, c'est un facteur important aussi, tu sais, moins de meetings, moins connectée, puis tout ça. Donc, je suis partie en Asie avec la conviction que j'allais pas boire parce que je voulais pas boire. Puis ça, je tiens à le dire, je suis pas partie avec une arrière-pensée que peut-être... Non, non, non. J'étais honnêtement convaincue que j'allais pouvoir vivre cette expérience-là sans alcool. Et la première semaine, ça a été vrai. Donc, moi, j'étais aux relations publiques. Fait que j'organisais les cocktails, les soupers, toutes ces affaires-là, tu sais. Puis... les plateaux de champagne passaient, l'alcool, l'orchestre, la robe longue, le bateau, l'Asie, tu sais, c'était flyé, là, tu sais, j'étais dans un monde de luxe et d'opulence. Moi, je viens de Laval-Ouest, là, fait que, puis de Sainte-Thérèse, j'ai rien contre ces deux places-là, je viens de là, mais, tu sais, il y avait un contraste, mettons, puis comme alcoolique qui aime ça flasher, ben, j'avais le spotlight, tu sais, fait que c'était très bien, mais je buvais pas, mais là, à un moment donné, après quelques jours, je me suis dit comment je vais faire pour survivre parce que j'étais quand même là 4-5 mois. Puis c'était tous les jours, toute la journée, tout le temps, l'alcool. Puis j'avais des invitations. Puis j'étais non, moi, je bois pas, je suis allergique à l'alcool. Ben voyons donc, t'es allergique, c'est quoi ça? En tout cas, tu sais, j'essayais de trouver des excuses, mais les gens me croyaient plus ou moins. Mais moi, j'étais bien, bien décidée à ne pas boire. Et un soir, je suis dans la salle de bal, de spectacle, avec ma robe longue, mes cheveux, tout le kit, mes talons hauts. Puis là, le plateau de champagne passe et je jure sur la tête de mon père qui est décédé, puisque quand je dis ça, ben faut me croire, que la seconde avant que le plateau passe, là, je pensais pas à boire. J'avais pas soif. Mais le plateau, ce soir-là, le plateau de champagne est passé, puis j'ai juste tendu le bras, puis j'ai pris la coupe, puis j'ai dit « Ah, de la marde! » Puis j'ai pris ma première gorgée, après 8 ans. Ça a été ça, tu sais, l'alcool déroutant, insidieux, je sais pas trop si c'est le mot, mais sournois, c'est ça. C'est ça, l'alcoolisme. C'est que au moment, en tout cas moi, au moment où je m'en attendais le moins, j'ai repris une gorgée d'alcool parce que j'étais pas en forme spirituellement. J'étais déconnectée du mode de vie et je me suis mis plus, je me suis mise dans une situation de grande vulnérabilité, voyons, vulnérabilité face à l'alcool. Et je me suis dit, ah, de la marde, Premièrement, personne va le savoir. Je suis en Asie, il y a personne. Puis il n'y avait pas d'internet à l'époque, fait que je communiquais par fax avec mes proches, là, tu sais, une fois par trois semaines, là. Fait que personne va le savoir. Puis deuxièmement, quand je vais revenir à Montréal, j'ai juste à retourner à Alcoolique Anonyme, puis je vais arrêter de boire. C'est tout. C'est facile. Parce que quand j'ai arrêté à 21 ans, c'est ça qui est arrivé. J'ai perdu la soif instantanément. Puis ça a bien été. Fait que pourquoi pas, tu sais. Fait que c'est facile, là. J'ai juste arrêté. Je vais arrêter quand je vais revenir, puis ça va être correct. Ça va juste être une petite rechute pendant de 4 mois. Puis après, je retourne faire AA, puis that's it. On n'en parle plus, puis personne ne va le savoir. Sauf que c'est pas ça qui est arrivé. La fameuse rechute de 4 mois, elle a duré 13 ans. 13 ans où là, j'ai connu des bas-fonds. Je dis des bas-fonds parce qu'il y a eu plusieurs bas-fonds, parce que là, c'est la dépression qui s'est emparée de moi pendant ces 13 années-là. Et on parlait de regrets tantôt. Tu sais, moi, j'en ai des regrets par rapport à cette période-là, puis il va être temps, à un moment donné, que je fasse la paix avec ça, parce que je deviens très émue quand je parle de ça, parce que c'est toute ma trentaine. La trentaine, c'est une période où on commence à se connaître mieux, on se bâtit, on se construit professionnellement, amoureusement, familialement et tout ça. Mais moi, ma trentaine, les 13 ans, ces 13 ans-là, je les ai passés à gérer mon alcoolisme, tout simplement, à être en survie par rapport à l'alcool. Est-ce que je suis alcoolique? Est-ce que je peux boire? Non, je suis pas alcoolique. Tu vois bien que je bois, puis je suis capable de boire juste 2 verres de vin, fait que je suis correct. Là, oups! Fait que c'était en dents de scie pendant 13 ans. Donc, il y a des périodes que je buvais pas pour me montrer que, tu sais, là, je disais, OK, non, là, je suis alcoolique, fait que je bois pas. Fait que je buvais pas pendant 2-3 mois. Puis là, mes amis me trouvaient dur à suivre, par exemple, parce qu'après ça, c'était comme « Ah, le party! » Puis je buvais. Et tantôt, je parlais de l'effet de l'alcool, tu sais, qui m'a aidé à vivre à l'adolescence, qui m'a apaisé, qui m'a aidé à entrer en relation avec les gens, les êtres humains, comme on dit. Pendant ma rechute, c'est pas ça qui s'est passé. Chaque fois, je peux dire aujourd'hui que chaque gorgée que j'ai prise pendant 13 ans, à chaque fois, j'avais l'espoir que ça allait me rendre bien, que ça allait me donner la paix. Parce que c'est ça que je cherchais. C'est ça que j'ai toujours cherché. J'ai toujours cherché à être bien, finalement, à travers toutes sortes d'affaires. À travers l'apparence, à travers le statut, à travers l'avoir. J'étais beaucoup dans l'avoir et non dans le être. Parce que qui j'étais, c'était pas assez bon. C'était jamais assez bon. Donc, j'ai jamais retrouvé les petites années où j'ai eu du fun, où ça m'a aidé à vivre, ne sont jamais revenues. Puis j'ai toujours cherché ça pendant 13 ans. Puis je me disais, tu sais, c'est quoi comment on dit ça? C'est la définition de la folie, c'est de répéter les mêmes actions en espérant des résultats différents. Ben c'est ça. Je répétais tout le temps la même action de boire et je m'attendais à ce que cette fois-ci, j'allais enfin retrouver le bien-être intérieur et ça n'a pas fonctionné. Mais pas du tout. Au contraire, je me suis... Puis les périodes où je buvais pas, là, j'étais en dépression, je pétais des coches, j'étais en colère, j'étais souffrante. Et je cherchais une manière de vivre, puis je pensais que la solution, c'était l'alcool. En fait, j'étais convaincue. Et l'autre chose, c'est que je ne voulais pas être alcoolique. Ça, là, ça a été mon cheval de bataille pendant 13 ans. C'est comme, non, moi, je vais être capable de boire. Parce que je veux boire. Puis pourquoi je veux boire? C'est correct de rire. Pourquoi je veux boire? Ben parce que je suis une alcoolique, tout simplement. Il n'y a pas mille. Tu sais, je pourrais boire parce que bon, j'ai pas eu une enfance heureuse, parce que non, je suis une alcoolique. Puis pour moi, la solution, c'était l'alcool. Et je parlais tantôt au début des traits de caractère, tu sais. Puis c'était difficile pour moi de vivre puis de savoir qui j'étais. Donc ça, je l'ai dit tantôt, puis c'est ça. Je peux résumer ma rechute de 13 ans en disant ça tout simplement, tu sais. C'est ça, pendant 13 ans, j'ai voulu prouver à moi-même, aux autres et à l'univers que j'étais pas alcoolique. Donc, j'ai tout essayé. Les façons de boire, arrêter, la sorte, les breaks, pas de breaks, tout ça, et ça n'a pas fonctionné.
Daniel, tu nous offres un regard très précis hein, sur la sournoiserie, la puissance de ce breuvage qui nous fait faire des choses à l'encontre de notre volonté, qui nous fait croire des choses qui ne sont pas exactes. Et ta comparaison entre savoir-être et faire est tout à fait juste aussi. C'est une méconnaissance de soi, c'est une paresse à la recherche de solutions et de méthodes plus douces pour atteindre le bien-être. Hein. C'est le but ultime de chaque être humain, être bien le plus souvent, le plus d'heures possible par jour. Et malheureusement, l'alcool apporte ce soulagement rapide en début de vie, mais plus jamais inatteignable pendant les 13 années qui ont suivi. Merci infiniment, on revient dans un instant.
Ce dont je me souviens le plus souvent, c'est la solitude que je ressentais. L'isolement au milieu du monde. À la fin, je trouvais plus de plaisir à boire. Depuis que j'ai commencé à assister aux réunions des AA, je me sens revivre. Et c'est peut-être ce que j'ai vécu de plus important. Je m'aime réellement moi-même. Et c'est très bon. Les AA sont comme un miracle dans ma vie. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
De retour avec Daniel qui nous offre un regard absolument conscient sur sa consommation, ses avertissements, pré-consommation, les comportements qui s'associent. Je trouve qu'il y a beaucoup d'informations dans ce partage et on aura sûrement plaisir à le réécouter sur notre site internet, le unjouralafois-émission.org, qui donne accès à notre banque de partage archivée pour écoute sur tout appareil intelligent. Donc, celui de Daniel va s'y retrouver dans quelques semaines, complétant notre banque de plus de 200 partages, où tu peux rester en contact avec le mode de vie, la solution, les conférenciers et conférencières de partout dans le monde avec une connexion Wi-Fi Internet. Il y a aussi sur ce merveilleux site les heures de diffusion de nos collaborateurs radio. Ils sont nombreux à travers le Québec à nous prêter leur temps d'antenne et une adresse courriel pour toutes questions et commentaires sur le mode de vie, le partage de Daniel, la solution AA et évidemment peut-être provoquer une visite en studio pour toi aussi venir nous parler de ton histoire. Celle de Daniel est absolument intéressante et on y retourne à l'instant. Elle était en défi, en combat contre cette interdiction de boire qui ne voulait pas s'appliquer à elle. On t'écoute.
Ouais, merci. J'ouvre une je me permets de je sais que c'est un partage alcoolique anonyme mais ça fait partie de mon cheminement, c'est un gros morceau aussi. Il y a une partie de où j'ai été où j'ai pris des médicaments. J'ai pris de la médication parce que j'étais en dépression et je suis allée voir le psychiatre qui m'a donné des antidépresseurs mais ça fonctionnait plus ou moins, j'étais fatiguée, très, très fatiguée. Ça fait que je suis retournée le voir, puis j'ai dit ça, puis il m'a dit, j'ai une solution. Ça, j'ai exactement le médicament qu'il vous faut. J'ai dit, moi, là, je suis une alcoolique toxicomane. Fait qu'il faut pas que je sente l'effet. S'il y a un kick d'effet, là, je le prendrai pas, parce que c'est dangereux pour moi. Fait que non, pas de souci, puis vous allez voir, puis de toute façon... Rentrez chez vous, madame, prenez deux cachets, puis appelez-moi dans 2 heures, tu sais, c'était vraiment ça. Fait que, genre, puis il me nomme le médicament, puis pour moi, ça me dit rien, tu sais, c'est un nom de médicament. Fait qu'en tout cas, fait que je vais à la pharmacie, je vais chercher ça, je le prends, et là, le miracle s'opère, je deviens tout à coup, la dépression s'en va, je viens de bonne humeur, je suis bien, je suis heureuse, tu sais, j'ai un grand sentiment de plénitude. Écoute, je fly, là, ça va bien. Fait que là, j'appelle mon médecin pour lui dire comment ça va, puis on se souvient que j'avais dit que si je ressentais l'effet, je le prendrais pas parce que c'est dangereux pour moi. Mais là, l'effet était tellement bénéfique. Voyons donc que je vais dire non à ça, tu sais. Fait que, il dit comment ça va? Ça va très bien, c'est extraordinaire. Fait que c'est comme ça que j'ai commencé à prendre cette médication-là, prescrite. Je l'ai pris tel que qu'il me l'avait prescrite pendant 3 ans. Puis à un moment donné, je suis retournée le voir parce que ça allait moins bien, puis ça. Puis il m'a dit, tu sais, vous pouvez expérimenter avec le dosage un peu. Je dis, ah, pas de problème. Fait que j'ai expérimenté avec le dosage et j'ai pris 3 fois la dose recommandée. Et là, ça a été vraiment un autre bofon parce que j'ai tout perdu. J'ai perdu mes REER, mon appartement, ma job. Je suis allée vivre dans des sous-sols d'amis qui m'ont hébergée. J'ai vraiment tout perdu parce que j'étais plus fonctionnelle. Je travaillais, puis je consommais tellement de médicaments que ça spinait tellement dans ma tête. Tu sais, ce que je recherchais, c'est le kick. Ce que je recherchais, c'est l'effet. C'est le buzz, tu sais, que l'alcool m'a donné. Mais là, j'ai juste fait un transfert. J'ai changé pour les médicaments. Et ça m'a mené vers un bas-fond terrible. Vraiment, là, je le souhaite pas à personne. J'ai essayé d'arrêter par moi-même parce que j'avais 4 pharmacies. J'étais très bonne pour manipuler puis avoir l'air normal puis d'expliquer que je partais en voyage 2 mois puis que j'avais besoin de, tu sais, d'une prescription puis tout ça. Bon. Et mon bas-fond, je me souviens un soir, j'étais dans mon lit. Puis moi, j'habite seule, je vis seule. Puis j'entendais des gens parler dans la cuisine. Il n'y avait personne, là. Là, j'ai dit, je pense que j'ai besoin d'aide. Et j'ai essayé d'arrêter toute seule. Ça n'a pas fonctionné. Je suis allée à la maison Jean Lapointe en désintox parce que j'avais vraiment besoin d'aide. Puis c'était dangereux. Écoute, je prenais ces médicaments-là qui étaient des stimulants. Je buvais à peu près 15 cafés par jour puis 5-6 Red Bull par-dessus ça, là, tu sais. J'aurais pu te claquer une crise cardiaque, là, anytime, là, facilement. Puis je m'entraînais en plus là-dessus parce que, tu sais, ça y allait, tu sais. Mais ça a eu comme effet pervers que je me suis retrouvée encore plus en dépression, épuisée, le système nerveux à bout. Donc, j'ai fait une thérapie de 3 semaines chez Jean Lapointe. Ça m'a sauvé la vie, encore une fois. Et pourquoi j'ai consommé, pourquoi j'ai accroché sur ces médicaments-là? Bien, parce que je suis une alcoolique, tu sais. À la base, moi, je m'identifie comme alcoolique. C'est juste que j'ai changé de substance. Pourquoi? Parce que je cherchais encore ce fameux bien-être et je cherchais à guérir ce mal-être qui m'habitait encore. J'avais pas encore compris que le bonheur... Tu sais, aujourd'hui, tu me demandes, est-ce que tu es heureuse, tu sais? Puis ma définition du bonheur, le bonheur, je l'ai tellement cherché à l'extérieur de moi, dans les chums, dans les jobs, dans les statuts, dans les... Moi, je voulais être une grande vedette, là, tu sais, j'avais des gros rêves, là. Je voulais pas juste être une petite personne ordinaire, c'était pas assez, tu sais. Être une personne, être un être humain ordinaire, j'utilise le mot ordinaire parce que il est noble. C'est pas mal d'être ordinaire pour moi aujourd'hui. C'est juste que je suis un être humain, pas mieux puis pas pire qu'un autre. T'sais, j'ai ma place et je suis correct. T'sais, je suis assez puis je suis correct. Ce que je suis suffit. J'ai pas besoin d'en faire plus, puis j'ai pas besoin non plus de tomber dans l'autre versant, c'est-à-dire de tomber dans l'auto-dénigrement puis le manque d'estime de soi. Tout ça pour dire que je suis retournée à A, finalement. À va-tu revenir? Ben oui, elle est revenue. Fait que je suis retournée à A et je voulais pas y retourner. Puis je suis allée parce que c'était la mort qui m'attendait sans ça. Donc, j'ai recommencé à faire du meeting, mais de façon très... Tu sais, au début, je disais qu'à 21 ans, ça avait bien été, perdu la soif, puis tout ça. Mais quand je suis retournée à l'âge plus tard... Non, c'est pas parce que je veux pas dire mon âge, j'ai 55 ans, je suis mêlée dans mes chiffres. Mais quand je suis retournée, j'ai pas perdu la soif. Je faisais du meeting... Je m'assoyais en arrière, les bras croisés. On me demandait, Daniel, veux-tu lire les étapes? J'étais là, ben oui, je vais lire tes étapes. Puis je roulais des yeux pendant que j'étais en avant. Puis les membres m'ont rien dit. Ils m'ont encouragé. Bravo, t'as bien fait ça. J'étais pleine de moi. J'étais pleine d'orgueil. J'étais pleine de souffrance. C'est comme ça que je le vois aujourd'hui parce que j'étais, l'obsession de l'alcool ne me quittait pas malgré que je fasse du meeting. Aujourd'hui, je peux voir que, tu sais, quand je lis la littérature, moi, ce que j'en comprends, c'est pas écrit « nous avons fait beaucoup de meetings et nous avons perdu la soif ». C'est sûr que ça fait partie de l'équation. Mais le message, c'est « nous avons mis en pratique ce simple mode de vie et nous avons perdu la soif ». Pour moi, ça fait la différence. Parce que je peux aller faire du meeting, m'asseoir, rouler des yeux, pas parler à personne puis me croiser les bras. Je peux faire 3 meetings par jour pendant 5 ans. Mais si je mets pas le mode de vie en pratique, je trouverai pas, premièrement, la soif risque de pas me quitter, mais non seulement ça, même si la soif me quitte, je trouverai pas cette paix intérieure que je recherche tant, tu sais. Puis, donc, 2 ans, ça a pris 2 ans avant que je perde la soif, à faire du meeting pendant 2 ans, à me dire, je reste dans les salles de meeting parce que sinon, je me jette en bas d'un pont, là. Fait que je reste dans les salles de meeting, mais à un moment donné, j'étais plus capable. J'étais à bout. Je comprenais pas pourquoi, à 21 ans, ça avait été si facile pour moi de perdre la soif, puis que là, je la perdais pas, malgré les meetings. Puis je suis allée voir Monique, une membre qui avait 35 ans de mouvement, une membre extraordinaire, très généreuse. Je suis allée la voir, puis j'ai dit, elle dit, ça va pas, hein? J'ai dit, non. J'ai dit, Monique, je comprends pas. À 21 ans, j'ai perdu la soif tout de suite, puis là, j'ai soif, fait 2 ans, je fais du meeting, la soif est encore là, puis tout ça. Elle m'a pas dit, t'as pas fait ta première étape, elle m'a pas dit ça. Elle m'a dit, à 21 ans, t'as fait un mariage d'amour avec A, puis là, tu fais un mariage de raison. Ce qu'elle voulait me dire, dans le fond, c'est que j'étais là, mais avec ma tête et non avec mon cœur. Et ça fait toute la différence. J'en parle, puis j'ai des frissons parce que pour moi, c'est ça qui a fait la différence. Quand elle m'a dit ça, on dirait que je suis mes défenses, j'ai perdu mes moyens, j'ai abdiqué. C'est ça qu'on dit, hein? Ça prend un total abandon à ce simple programme qui est composé de 12 étapes. Et la première, elle est pour moi primordiale, évidemment, parce que tout part de la première étape pour moi. Et aujourd'hui, je peux dire oui, effectivement, j'ai pas perdu la soif parce que j'étais là avec ma tête, j'étais là avec mon orgueil et j'acceptais pas que j'étais une alcoolique. Je rationalisais mon alcoolisme. Et c'est un mode de vie spirituel. Et la réponse, elle est spirituelle. Donc, Monique m'a sauvé la vie. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'impliquer. J'ai commencé tout doucement à m'ouvrir aux autres, à m'impliquer dans le mouvement et à mettre le mode de vie en pratique au meilleur de mes connaissances, avec l'honnêteté dont j'étais capable, puis c'est encore comme ça aujourd'hui. Il y a 2 choses qui m'aident à vivre aujourd'hui. C'est sûr que moi, si je ne mets pas Dieu dans ma vie au quotidien, le bonheur que je recherche, je ne le trouve pas. Parce que bon, la grande question, c'est bon, mais finalement, es-tu heureuse, tu sais? Ça fait que c'est une grande question.
On le découvrira ensemble après cette troisième et dernière pause. Ce que je retiens de ce segment, c'est évidemment l'abandon et la recherche de la connaissance par le cœur, par le spirituel, par cette proposition de douceur et d'intuition qui nous est offerte dans AA. Un monde très cérébral dans lequel on le vit, où on interprète, où on évalue à peu près toutes nos pensées et nos émotions, mais la solution se trouve ailleurs et elle se manifeste dans la vie de notre invité. On y revient dans un instant.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie de René et son équipe.
C'est le moment de se retrouver pour un dernier segment, celui de la conclusion du partage de Daniel. Un partage que je me plais à découvrir à chaque instant et que je vais sûrement me déposer pour écouter dans le futur, étant donné que j'ai un petit peu de travail technique à faire à travers cette émission. Je vais pouvoir m'asseoir tranquillement chez moi et réécouter cette belle aventure qu'est celle du rétablissement de Daniel. Avant de poursuivre, je t'informe, si Daniel a stimulé en toi le désir de connaître la formule et la solution AA, le site internet aa-quebec.org attend pour t'informer de plein de choses, entre autres le numéro de la ligne d'aide de ta région, si tu ressens le besoin de parler, si Daniel a suscité ce besoin en toi, si tu te poses des questions sur ta consommation, il y a un membre bénévole des Alcooliques Anonymes qui attend ton appel tous les jours de 9h à 10h, le soir évidemment. Il y a aussi sur ce site la liste des réunions près de chez toi. On est privilégié chez Léa. Il y en a à tous les coins de rue dans toutes les villes du monde. On attend donc ta visite. Daniel, il te reste 10 minutes et il t'appartient. On t'écoute.
Merci beaucoup. J'ai quitté le segment précédent sur une note sur le bonheur, sur la grande question du bonheur, tu sais. Puis, et que je l'ai donc cherché, tu sais. Puis aujourd'hui, j'y touche, tu sais. Est-ce que je suis heureuse? Oui. Est-ce que c'est parfait? Non. Est-ce que j'ai tout ce que je voudrais? Non. C'est ça. Mais moi, il y a deux grandes choses qui m'aident à vivre aujourd'hui. C'est le mode de vie. Et le mode de vie, en fait, c'est une grande chose. Le mode de vie, c'est un mode de vie spirituel. Et toutes les étapes, quand on les regarde attentivement, nous mènent vers une plus grande humilité. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et pour moi, qui est une personne qui a beaucoup d'orgueil, je trouve ma paix et mon bien-être et mon bonheur dans l'humilité. Parce que l'humilité m'aide à accepter. Quand j'ai l'humilité de dire, tu sais, au lieu de dire pourquoi moi, pourquoi ça m'arrive à moi, mais aujourd'hui, tu sais, dans ma dimension humaine, je suis capable de me dire, oui, mais pourquoi pas moi? Je suis humaine. Je vais vivre des peines, des déceptions. Je vais vivre des belles choses aussi, des joies. Je vais vivre toutes sortes de belles choses aussi. Mais la vie est comme ça. La vie est pas facile, nécessairement, pour personne. Et pour moi, elle peut être très compliquée, étant donné mon état d'alcoolique. Donc, quand j'accepte ce qui se passe dans ma vie, ça veut pas dire que je suis d'accord. Ça veut pas dire que j'aime ça. Mais ça veut tout simplement dire que voici les faits. Les faits, ce qui m'arrive, j'ai pas le contrôle sur ce qui m'arrive et je l'accepte et je fais plus que l'accepter. Pour moi, c'est l'accueillir. Je devrais plus dire accueillir la vie comme elle se présente une journée à la fois. Quand je me réveille le matin, je demande à Dieu, mon Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne. Puis ça, c'est important pour moi de le dire. C'est important pour moi de le vivre aussi le plus possible. Et dans ma chambre à coucher, j'ai un mur face à mon lit. Je me suis fait une petite note et j'ai écrit « Laisse Dieu agir ». Pour moi, c'est important de me dire ça plusieurs fois par jour. « Laisse Dieu agir, Daniel. Arrête de vouloir tout contrôler puis de prendre le contrôle puis de, tu sais, de croire qu'est-ce que... de penser savoir ce qui est bon pour moi. C'est sûr que je suis un être humain intelligent, puis j'ai des qualités, puis je suis capable de prendre des décisions, puis faire des projets, puis tout ça. Mais tout ce qui est existentiel, relationnel, c'est Dieu qui... je confie ma vie à Dieu au meilleur de ma connaissance chaque jour. Et pour moi, une des étapes que j'aime beaucoup, c'est la septième étape. Oups, ça, c'est les traditions. Les étapes sont ici. Nous lui avons humblement demandé de faire disparaître nos défauts. C'est un travail de chaque jour. C'est un travail de... C'est pas un travail. C'est un laisser-aller. C'est un abandon. Tantôt, je parlais à ma fiole. Puis elle me disait, c'est quoi pour toi la puissance supérieure? Ta puissance supérieure, elle se manifeste comment? Puis c'est rare que je me fais poser la question. Je le vis, mais l'expliquer, c'est une autre affaire, tu sais. Puis il y a comme pas vraiment de mots pour l'expliquer. J'essayais de lui dire, ben, c'est d'être le plus possible dans l'accueil de l'autre, dans la bienveillance le plus possible, dans le non-jugement. Est-ce que je juge encore? Oui, ça m'arrive de juger, c'est sûr. Mais quand je juge, j'essaie de changer ma façon de penser puis dire, OK, là, je viens de juger. Fait que je fais une prière pour la personne puis je fais comme, OK, mon Dieu, que ta volonté soit faite et non la mienne, tu sais, parce que je veux plus être là-dedans. Je veux plus être dans le jugement puis la critique, le ressentiment, l'apitoiement, tu sais, tantôt, je parlais de ma dimension humaine, tu sais. Je suis pas mieux qu'un autre, puis je suis pas pire qu'un autre, tu sais. Puis c'est pour moi, c'est ça l'humilité, tu sais. C'est d'être consciente, tu sais. Connais-toi toi-même. Fait que j'ai tellement cherché à savoir qui j'étais, tu sais. Puis aujourd'hui, ben, je pense que je réussis à toucher à mon essence, puis à en faire profiter les autres. Mais je dis ça avec humilité aussi parce que, tu sais, je m'implique dans le mouvement. J'ai toujours eu, depuis, là, ça fait 11 ans que je suis revenue et j'ai toujours eu une job, tout le temps. Je suis toujours impliquée J'ai fait mon groupe d'attache, c'est le jeudi soir, je ne sais pas si je peux le nommer. C'est La Joie, le groupe La Joie, jeudi soir. Donc, c'est mon groupe d'attache, je suis impliquée là. Et là, je suis RSG. C'est ma deuxième année comme RSG. Et j'adore ça parce que ça me donne l'occasion de servir, ça me donne l'occasion de rendre service, ça me donne l'occasion d'apprendre aussi. Puis j'apprends aussi à entrer en relation avec les autres sans orgueil, sans contrôle le plus possible. Tu sais, est-ce que je suis Saint-Daniel? Non, je suis pas Saint-Daniel. J'ai encore beaucoup de défauts. Je parlais tantôt des caractéristiques, l'estime de soi que j'avais pas et la peur de... Tu sais, tout le message négatif de « je suis pas assez belle, je suis pas assez bonne, je suis pas assez intelligente » puis tout ça. Heureusement, avec le mode de vie aujourd'hui, je suis capable de m'apprécier à ma juste valeur et de... Je sombre plus dans le dénigrement comme je le faisais avant, parce que le dénigrement, quand je commence à me dénigrer, ça m'amène à l'apitoiement. Puis l'apitoiement m'amène à la dépression. Et la dépression m'amène à vouloir consommer. Et c'est une spirale maintenant que j'arrête dès le début. Fait que oui, ça m'arrive, tu sais, d'avoir du ressentiment ou de faire de l'apitoiement. Puis, mais je reste plus là-dedans. Je reste plus là-dedans parce que j'ai des outils. J'ai un mode de vie. Puis j'essaye. Quand j'ai des amendes honorables à faire, j'essaie de les faire, mais j'haïs ça, faire ça. Fait que je m'organise pour pas avoir un enfer, tu sais. J'essaie d'être une bonne personne le plus possible. Mais quand je dois m'excuser, je le fais. Puis c'est le fun parce que le mode de vie, pour moi, oui, ça m'aide à pas boire. Ben, j'ai perdu la soif, là. J'ai plus d'obsession, tout ça. Mais je suis pas dupe, là. Je sais que je demeure une alcoolique et que je demeure vulnérable. Si je ne mets pas le mode de vie en pratique, si je fais pas ce que j'ai à faire tous les jours, je pourrais reboire. Ça se pourrait. J'ai pas l'intention de le faire. Mais est-ce que c'est possible? Oui. Donc, le mode de vie m'aide au niveau de la consommation. C'est sûr et certain. Mais il m'aide dans ma vie de tous les jours aussi. Puis, tu sais, moi, le matin, quand je me lève, là, ça me tente pas toujours d'aller travailler. Ça me tente pas toujours. Puis en ce moment, c'est plus difficile. L'isolement social, les meetings Zoom, tu sais, c'est bien. C'est très bien. Mais moi, les salles me manquent. Le contact avec les autres me manque. Je travaille de la maison et j'essaie d'être une bonne personne pour mes collègues. J'essaie de prendre, même si je suis fatiguée, j'essaie de prendre le téléphone ou de faire un meeting juste pour dire bonjour, comment ça va? J'appelle les gens pour leur demander comment ça va parce qu'eux autres aussi sont en télétravail puis sont isolés. Puis je me dis, si moi je me sens seule puis je trouve ça difficile de me motiver à travailler, ben eux autres aussi. Fait que je les appelle. Puis là, c'est comme, ben je voulais juste te demander comment tu vas, c'est tout. Puis moi... Peut-être que je fais du bien à la personne, mais moi, quand je donne de l'amour, là, ça me remplit, ça me donne de la joie. Puis la fameuse question « Es-tu heureuse? » Ben elle est là, elle est toute simple. T'sais. Aujourd'hui, je sais que c'est pas la voiture ou l'argent. J'en ai pas d'argent, j'en ai pas de voiture, j'ai pas de matériel, moi, j'ai rien. Puis c'est correct. Puis ça a été un point très, très souffrant pour moi pendant bien des années, le matériel, parce que j'en ai jamais eu. Puis quand j'en ai eu, j'ai tout flobé. Fait que j'ai jamais rien gardé parce que pour moi, tu sais, j'étais beaucoup dans la consommation, puis dans le, encore une fois, dans le paraître, puis dans le faire. Fait que aujourd'hui, j'ai plus de matériel, puis je suis pas insécure. J'ai pas peur. Puis, tu sais, on dit habité par des centaines de peurs. Oui. Je suis une grande peureuse, tu sais. Mais plus maintenant. J'ai encore des peurs, c'est sûr, j'ai encore des peurs. Mais j'ai un mode de vie, encore une fois, puis j'ai ma puissance supérieure, puis j'y parle. Puis j'ai dit, mon Dieu, j'ai peur. Prends ça, accompagne-moi, trouve-moi, tu sais, fais-moi dire et faire ce que je dois dire et faire. Et Dieu se manifeste par les êtres humains. Et Dieu fait pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. De là... mon petit slogan de « Laisse Dieu agir ». Parce que je sais que quand je laisse Dieu agir, ma vie est plus douce. Je suis plus sereine, je suis plus heureuse, je suis plus aimable, je suis plus capable d'entrer en relation avec les autres. Moi, avant ça, les autres, là, je m'en foutais, pour pas dire un autre mot, là. T'sais, c'est comme « Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? » T'sais, c'était ça, moi. J'entrais en relation avec les gens dans le but de m'en servir, d'une certaine façon. Et aujourd'hui, c'est le contraire. Aujourd'hui, je m'assois devant une personne et c'est comme, OK, raconte-moi qui tu es. J'ai envie de te connaître. T'sais, j'ai envie de savoir qui tu es. Donc, tout ça, Bien, c'est grâce au mode de vie des alcooliques anonymes. J'ai énormément de gratitude. C'est pour ça que je fais beaucoup de services en ce moment. Puis j'essaie de redonner le plus possible à chaque jour. Puis je te remercie beaucoup de l'opportunité que j'ai eue aujourd'hui de venir partager mon expérience. Puis je vous souhaite une belle journée.
C'est moi qui te remercie infiniment, Daniel. Quelle belle énergie remplie le studio présentement. Un partage qui se termine sur une note d'espoir, de force, de lumière, de possibilité incroyable. Elle s'est manifestée dans la vie de Daniel et c'est une promesse que AA te fait. Elle t'attend toi aussi si tu décides de poser action. Un partage qui nous servira longuement. Je te remercie infiniment, Daniel, de t'être déplacé. Un merci particulier à nos auditeurs de nous suivre, de nous écouter sur les diverses plateformes et médiums. Un merci à notre équipe d'Un jour à la fois qui travaille bénévolement pour préparer ce magnifique produit. Et un merci spécial à nos collaborateurs radiodiffuseurs qui nous offrent leur temps d'antenne à travers le Canada français. Ici René, votre animateur, qui vous souhaite une bonne semaine. À très bientôt!